Nesdek, salut.
Bonjour.
Nesdek Arajoie, de base. Aujourd'hui, tu habites du côté de Saint-Étienne, hein, c'est ça?
C'est ça, dans la plaine du Forêt à Montbrison.
Tu t'es revenu à Arras il y a quelques semaines dans les locaux de PFM pour une rencontre autour de Wikimedia. Toi, tu es contributeur à Wikimedia, Wikipédia, OpenStreetMap, Open Food Facts, etc. Alors, d'abord, comment tu présenterais, toi, Wikimedia?
Wikimedia, c'est une galaxie de contributeurs et de contributions et d'éléments dans le libre qui sont d'abord Wikipédia, mais ensuite on a d'autres projets frères qui sont par exemple Commons ou Wiktionary. Donc c'est des plateformes qui permettent de la diffusion de connaissances au niveau international. Donc il n'y a pas de notion de pays il peut y avoir autant de langues que possible. Et donc c'est de la diffusion de savoir organisée de manière libre.
Alors l'outil le plus connu, c'est Wikipédia, hein, cette encyclopédie en ligne contributive. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, comment fonctionne Wikipédia par exemple?
Alors, par rapport à d'autres outils, par exemple, dont on a parlé, comme OpenStreetMap, il n'y a pas besoin d'avoir de compte pour contribuer sur Wikipédia. Donc, tout un chacun qui voit une faute, une erreur ou a envie d'alimenter fortement un article, peut le faire. Donc, du coup, la première chose, c'est l'utilisation de l'outil, c'est prendre connaissance du contenu. Donc, il peut y avoir une lecture via un ordinateur ou un téléphone portable, puisque on essaie de faire en sorte qu'il puisse y avoir l'accessibilité au maximum. Et donc, il y a un petit onglet qui permet de dire modifier. Donc on a la possibilité de modifier soit de manière très visuelle, comme on a l'habitude de le faire avec des logiciels de bureautique, soit avec un système un peu de codage, donc avec une certaine typologie qui est un peu plus complexe, mais qui a son charme entre guillemets. Et puis donc ces modifications sont le fait aussi d'échanges entre contributeurs. C'est-à-dire qu'on peut modifier de son côté. Après, c'est instantané. C'est-à-dire que dès que l'on fait modifier, on peut prévisualiser, mais ensuite, on met en ligne directement et ça se met en ligne instantanément. On peut imaginer du coup que si tout le monde se met sur une page qui peut susciter des controverses, et ben, il y a aussi des garde-fous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de modifications en même temps, et du coup, il y a des échanges qui ont souvent lieu en fait entre contributeurs. Donc, on peut se poser des questions, on peut demander des confirmations. Il y a un système de forum en fait parallèle qui n'est pas trop visible par le lecteur, mais qui est complètement ouvert également. Donc, des gens qui ne sont pas connectés ont accès également à ces échanges, ces discussions, ce qui permet de fiabiliser également le contenu, puisque contrairement à des encyclopédies qui étaient réputées entre guillemets plus sérieuses, où en fait on disait on contrôle a priori, le contrôle se fait maintenant à posteriori dans ce genre de plateforme, et du coup, il y a un intérêt à ce qu'on sache quelles ont les interactions des uns et des autres, et donc l'historique des échanges entre contributeurs et de tout ce qu'ont fait les contributeurs est très intéressant d'avoir en tête, et donc tout est disponible en fait.
Tu as parlé de fiabilité. Il y a des gens qui remettent régulièrement en cause la fiabilité de Wikipédia. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu vois les choses?
Alors, tout outil n'est pas infaillible, hein, donc il y a des sujets sur la fiabilité. Il y a surtout un sujet d'éducation aux outils, c'est-à-dire que il faut savoir critiquer, il faut savoir lire ce que l'on a sous les yeux et donc savoir utiliser l'outil. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Wikipédia, notamment le fait que il peut y avoir des gens qui rédigent de manière orientée. C'est tout à fait le cas. Et donc, il faut qu'il puisse y avoir une vigilance quand on lit un article, savoir l'historique, savoir qu'on peut regarder l'historique, c'est-à-dire que une page est toujours en mouvement. Il peut y avoir des modifications la seconde avant la consultation et la seconde après la consultation, tout comme il peut y avoir des articles qui ne bougent pas pendant 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est une vigilance, un esprit critique, en fait. Voilà le terme qui sera employé, c'est l'esprit critique. Pouvoir lire le contenu, lire l'historique, mais aussi lire les sources qui sont apportées. Typiquement, quelqu'un qui va rédiger sans sourcer pose un problème de fiabilité à l'encyclopédie. Donc les contributeurs demandent à rajouter des sources et donc le lecteur, qui a un esprit critique, peut aussi se dire que telle ou telle phrase qui n'a pas eu une source va être à remettre en question et soit il le signale, soit lui-même, en le lisant, il va par son esprit critique se dire je ne prends pas en compte ou je fais attention à ce qui a été dit. Et en plus de ça, parce que c'est toujours assez compliqué, chaque source va avoir un poids plus ou moins important. C'est-à-dire qu'un média qui va être notoirement orienté, s'il est utilisé comme source, n'aura aucun poids et sera même quelque chose qui va décrédibiliser la phrase qu'il aurait dû soutenir. À l'inverse, des sources qui vont être très sérieuses vont venir complètement valider la phrase qui aura été rédigée.
Comment Wikipédia fait face, notamment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la fachosphère, c'est-à-dire de la présence massive de gens qui postent des messages haineux ou orientés vers l'extrême droite, et puis de manière plus générale, il y a des sujets sensibles, il y a des sujets politiques. Comment Wikimedia deal avec ça?
Alors, eh ben, ça fait le lien un peu aux sources, c'est-à-dire que chaque média a bien été catégorisé et chaque média peut aussi évoluer dans son positionnement suite à des rachats, suite à des orientations de ligne éditoriale. Et donc, les contributeurs vont veiller à ce qu'il y ait une certaine proportionnalité entre différentes orientations de certains médias. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point par rapport au sujet d'une certaine implication de personnes qui auraient des idéologies, ce qui se retrouve plutôt, c'est des conflits d'édition, mais qui vont à la fin trouver un consensus et il n'y aura pas de gros biais à la fin. Quand on prend par exemple un article, par exemple nous dans la région, ça a eu un écho national, par exemple l'Arix et le fait que Quentin de Ranque soit décédé en début d'année. Eh bien, on peut retrouver énormément d'informations sur Internet, sur certains sites de médias. Sur le moment, il y a pu avoir énormément de biais sur tel ou tel média. Eh bien, quand on pouvait prendre connaissance des faits et rien que des faits sur Wikipédia, eh bien, on avait quelque chose de très sérieux et de très chronologique et de très documenté. Et donc, cet exemple-là me donne bon espoir sur le fait qu'il y a une régulation de la donnée et qu'on puisse bien échanger entre pairs jusqu'à aboutir à des consensus et que ça puisse être relativement neutre, mais rien n'est neutre, mais en tout cas le plus neutre. L'autre chose aussi, un autre exemple qu'il a, celui-là est le plus probant, c'est donc si on reste sur cette thématique un peu, de certaines infiltrations entre guillemets avec des biais d'orientation, on peut retrouver un très grand contributeur qui il y a quelques années était dans une campagne d'un candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle française. Il avait fait beaucoup de modifications, des choses qui étaient mineures mais très bien sourcées et très peu visibles, puisqu'il avait une étendue assez forte et du coup il pouvait masquer par l'ensemble de ses de ces autres modifications, et ça a été découvert en fait. Ça a été découvert, donc du coup, il y a eu un gros travail de modification des articles qu'il avait touchés, et il a été banni, et il y a eu une introspection forte. Donc c'était, si on retrouve cet événement-là, même Wikipédia en parle dans certains articles, il y a eu plusieurs passages dans des médias, c'est l'épisode Wikizedia. Du nom de la première lettre d'un nom de candidat à l'élection présidentielle.
Puisque tu parlais d'un fait d'actualité, la règle générale de Wikipédia à la base, c'était qu'il fallait parler d'événements de plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, si je me souviens bien la rencontre qu'on a eue. Finalement, sur des sujets qui semblent importants à la communauté, il y a des entorses à cette règle.
Oui, en fait, il y a la règle et l'application de la règle. Quand il y a des sujets qui sont trop importants, une guerre ou un événement qui fait la une sur plusieurs jours de médias, l'encyclopédie ne peut pas ne pas en parler, puisque ce serait au contraire laisser certaines désinformations se propager, et il est préférable d'avoir une page qui va être très régulièrement mise à jour avec beaucoup de contributeurs qui viennent donner les points de vue différents et mettre un gros bandeau alerte. Quand c'est des sujets relativement récents, il y a un sujet, il y a un bandeau au tout début qui dit attention, événement récent, la page elle peut bouger régulièrement. Et donc, par ces alertes et par une participation de nombreux Wikipédiens, la fiabilité et la pertinence qu'il y ait cette page, est garantie.
Encore une question sur Wikipédia. Comment se fait le choix des sujets? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que un article peut exister ou pas sur Wikipédia? Donc, lors de la rencontre, on évoquait le cas, par exemple, il n'y a pas de page pour Radio PFM. Il n'y a pas de, voilà, il y a certains sujets qui sont considérés peut-être pas assez importants ou qui n'intéressent pas un grand auditoire. C'est quoi en fait la règle pour ce qui intéresse ou pas les gens?
Du coup, pour créer un article, il faut généralement avoir une certaine expérience. On recommande aux nouveaux utilisateurs de plutôt modifier des articles déjà existants. Moi-même, je n'ai pas une très grande expérience dans la création d'articles. Donc, toutes les règles qu'il va y avoir pour en créer, je n'en ai pas toute connaissance, mais les plus importantes, c'est qu'il puisse y avoir des sources, qu'il puisse y avoir des sources de médias nationaux, non pas qu'il ça reste des sujets extrêmement locaux et et qu'en fait un média national permet de valider la pertinence que ce soit pas du travail inédit. En fait, on a beaucoup de personnes qui vont supprimer du contenu en disant attention, c'est de l'information qui ne se retrouve pas ailleurs. Il ne doit pas y avoir d'articles de contributions qui ne se retrouvent pas ailleurs. En fait, si des gens veulent faire des choses très spécifiques et créer du contenu mais à soi-même, eh bien, ce n'est pas l'objet en fait. Autant se créer son site internet, son blog, parler des choses et développer ses avis, mais il faut vraiment rentrer dans cette idée d'une encyclopédie, d'un savoir encyclopédique, d'un savoir utile et qui ait un intérêt dans le court, moyen et long terme sur ces questions de validité d'articles. Par exemple, encore il y a peu, en fait, j'ai été sollicité parce que j'avais fait des contributions sur une page et une personne de Wikipédia, un contributeur comme moi, s'est posé la question de la pertinence que cette page existe. Donc, je crois que cette page avait été créée il y a 10 ans et elle a été remise en cause hier, en fait. Donc, à tout moment, on peut se dire, eh ben, cette page, pourquoi elle existerait? Et re-questionner effectivement, quand j'ai regardé la page à ce jour, elle était étonnante puisque c'est quelqu'un qui est notoirement connu pour être un acteur, un comédien dans des séries télévisées et qui a une très grande popularité, on va dire. Moi-même, j'ai pu argumenter sur la pertinence de cet article en ayant connaissance des statistiques de consultation. C'est-à-dire que, comme je vous dis, qu'on peut tout savoir, entre guillemets, on peut savoir aussi chaque jour quel article a été vu combien de fois, faire des comparaisons, voir la popularité de tel ou tel sujet dans le temps. Et du coup, bah, en voyant par exemple que cet article était quand même vu une centaine de fois chaque jour, en ayant ma propre expérience culturelle, j'ai pu argumenter sur le fait de conserver cet article. Tout 2 ou 3 heures après, il y avait 2 autres personnes qui avaient répondu pour conserver. Il n'y avait qu'une seule personne qui était à dire qu'il fallait la supprimer, mais le débat va avoir lieu pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Mais j'ai pu mettre en évidence qu'il n'y avait qu'une seule source dans cet article et la source était vraiment de très très mauvaise qualité. Donc quelqu'un, là il s'agissait d'un comédien et d'un acteur français, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde qui lit ça et qui n'en a jamais entendu parler et qui voit une source de si mauvaise qualité dans une phrase qui était extrêmement pauvre, pouvait totalement se dire que l'article n'avait pas lieu d'être. Et du coup, ça a permis de relancer l'intérêt sur cette page. Et dans l'un des arguments de quelqu'un qui disait de conserver, il avait déjà trouvé 5 ou 6 sources très pertinentes qui pourront enrichir dans les prochains jours l'article et lui permettre vraiment de se poursuivre.
Nasdaq, toi, tu es contributeur bénévole, tu fais ça complètement bénévolement. D'abord, comment tu as commencé et puis quel intérêt tu y trouves à participer à ce projet?
Alors, moi, ça fait au moins 15 ans que je contribue. Donc, je suis dans la vie active et j'avais commencé à contribuer en étant encore en études. J'avais commencé à modifier, comme un peu tout le monde, je pense, une virgule, un point, un accord, quelque chose de très, très simple, pour ensuite progressivement ajouter du contenu, vraiment des phrases et des sources et des choses qui viennent vraiment être plus complets. Ma motivation pour modifier est vraiment de rendre ce que l'on peut recevoir en fait. Wikipédia part d'une utopie qui est le savoir libre et l'utilisation de cette connaissance est gratuite. Donc c'est libre et gratuit. Donc c'est parce que c'est deux choses aussi différentes. Hein. Il peut y avoir des comme des moteurs de recherche qui sont gratuits mais qui sont pas libres. Donc du coup on utilise la donnée personnelle, on vient mettre de la publicité, etc. Wikipédia, il coche toutes les cases, c'est-à-dire que à la fois c'est gratuit, c'est vraiment un projet qui n'en existe pas d'autre à ce niveau-là. C'est dans les 10 premiers sites internet consultés au monde. Le fait de pouvoir y avoir accès sans payer et sans avoir une publicité orientée est inédit. Et donc, tout simplement, l'idée est de, j'y trouve énormément d'informations. Je consulte souvent, j'apprends beaucoup de choses, je suis très éclectique dans mes consultations, ça peut aller de la culture, l'histoire, la technique, etc., etc. Et je ne paye pas, je ne donne pas d'argent quand ils font des appels à dons, je préfère donner en nature mon bénévolat.
Dernière question, tu participes aussi à des projets de la sphère Wikimedia qui sont OpenStreetMap et OpenFoodFacts. Peut-être un mot sur ces deux projets aussi?
Oui, alors du coup, ça, quand on met le pied dans le domaine du libre, on voit tout ce qui gravite autour, puisque OpenStreetMap, c'est une cartographie mondiale libre qui est un projet britannique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que Wikipédia a été originaire de Californie, OpenStreetMap d'Angleterre, OpenFoodFacts de France. Enfin, chaque bonne initiative sont bonnes à prendre. Wikipédia, quand il y a nécessité de mettre en place de la cartographie sur Wikipédia, ils utilisent OpenStreetMap. Donc en fait, ça vient s'alimenter d'un côté. Et OpenStreetMap, quand il y a des attributs à donner, on passe par Wikipédia. Donc en fait, c'est interconnecté. C'est des projets qui sont indépendants, mais qui s'alimentent les uns les autres. Voilà, OpenStreetMap, c'est vraiment un très bel outil. Il y a des rendus très intéressants, il y a une fiabilité, c'est extrêmement pertinent. On peut avoir des choses qu'on ne retrouve pas dans d'autres systèmes cartographiques payants et propriétaires. Par exemple, les itinéraires cyclables, les accroches à vélo, des choses comme des boîtes à livres, des trucs très culturellement intéressant et qui nous servent à tous les jours, des rendus qui sont vraiment très pertinents et une mise à jour qui est faite très régulièrement avec des réutilisations multiples, des partenariats avec l'IGN, avec La Poste, Enedis, enfin des éléments qui sont aussi très pertinents. Accessible aussi en téléphone, sans avoir nécessité aussi d'installer d'application. Ça, c'est aussi très intéressant dans l'univers du libre, c'est de se dire, je n'ai pas obligation d'installer quelque chose, je peux le faire en web sur un n'importe quel navigateur, téléphone ou ordinateur, et donc j'ai accès à cette information librement. Et si on parle également d'Open Food Facts, alors j'y contribue beaucoup moins ces derniers temps, mais c'est une base de données en fait sur l'alimentaire. Ça part en termes d'identifiant unique, c'est le code barre en fait qu'on peut trouver dans le commerce. Et derrière, on a tous les attributs qu'on peut ajouter. C'est le nom, la catégorie, le grammage, le type d'emballage, le lieu de transformation, etc. Enfin, on peut tout imaginer les caractérisations d'un produit qui se mange entre guillemets dans le dans le dans le commerce. Et ça permet ensuite, grâce à cette méga base de données, il y a même des photos aussi, on peut prendre des photos devant, derrière, etc. Et ça permet en fait d'avoir une donnée beaucoup plus fiable que celle que l'on retrouve quand on est au magasin, qu'on a du mal à faire son choix parce que c'est écrit tout petit ou bien il montre des choses par communication et par comment dire par marketing. Par marketing, on va mettre en évidence certaines choses. Là, Open Food Facts permet de mieux rendre visible les informations, par exemple l'ultra transformation, par exemple les quantités de sucre, les quantités de sel. On peut avoir aussi des éléments très intéressants sur le lieu de fabrication. Parce qu'après, comme c'est des choses qui se retrouvent, les FR, par exemple, dans la Loire, c'est 42,001, par exemple. EC, ça veut dire que c'est EC, Communauté européenne, FR France, et le 42, c'est le département de l'emballage, en fait, où est-ce que ça a été emballé. Et du coup, ben, si on catégorise chaque produit et qu'on a cet élément-là, ça, on permet du coup, en ayant accès à cette information-là, de retomber sur tous les produits où ils ont pu avoir été emballés. Et du coup, y a des choses qui sont très intéressantes, c'est qu'on renverse l'information et on permet d'avoir accès, par exemple, au fait que certains yaourts il peut y avoir une vingtaine de marques qui utilisent la même usine de fabrication du yaourt. Et du coup, on a accès à de l'information qu'ont accès plutôt les professionnels, quoi. Et c'est très utile aussi en termes de santé publique, puisque c'est notamment Open Food Facts qui a relayé le Nutri-Score de Serge Herzberg et qui était dans les recommandations nutritionnelles et faire en sorte que l'on améliore ce que l'on mange. Et du coup, ça a popularisé le dispositif et ensuite, on l'a retrouvé sur les emballages et c'est des choses qui vont dans le sens du mieux manger.
Merci pour toutes ces infos et puis à bientôt alors.
Merci, bonne journée.